La roue tourne. La paix pouvait reprendre ses droits dans le hameau de Doux-Chemin. On apercevait Raymond qui vaquait, une petite boule de poils sautillant autour de lui, comme un moustique qui ne vous quitte pas. La saison des pommes s'annonçait imminente et le vieux préparait le matériel indispensable à la récolte, révisait le pressoir et les fûts. Il rentrait plus tôt le soir pour caresser longuement Nimbus, s'asseoir à côté de lui pour lire son journal, prendre les regards que le vieil animal distribuait encore, pendant que le corps s'en allait. Gaëlle était partie plusieurs fois en forêt et revenait avec d'imposants chargements de branches. Elle avait décidé de ne pas rouvrir les chambres d'hôtes avant le printemps. Les quelques clients déjà inscrits pour novembre et décembre s'étaient vus proposer la concurrence qui, à Brocéliande, n'était pas considérée comme telle. Gaëlle voulait créer, inventer, gratter, illuminer, profiter, se poser et s'élever à la fois. Elle voulait offrir sa disponibilité à son fils dans ce moment de bascule où il y avait eu l'avant et où commencerait l'après. Elle supposait qu'il ne se passerait rien de perceptible et que le changement opérerait en douceur, maintenant qu'il s'était libéré de son secret. Elle se devait d'être là malgré tout, et qu'aucun tiers ne vienne perturber le processus. Plus que jamais, Gauvin s'activait, pour aider sa mère bricoler un troisième automate dans l'atelier de Raymond et surtout prendre soin d'Adèle. Malgré l'agilité de la jeune femme à manier les béquilles et à s'aventurer dans les escaliers, l'adolescent solide s'était improvisé porteur et la chargeait sur son dos pour la déposer là où elle le lui indiquait. Dès le lendemain de l'accident, elle avait émis le souhait de pouvoir quand même monter Perceval, au moins autour du hameau. Gauvin fit le nécessaire pour accéder à sa demande. Il préparait le cheval, le sellait, aidait la jeune femme à se hisser puis l'accompagnait à vélo sur les chemins alentours. Édouard installa la roue sur le siège arrière de sa voiture, protégé par un emballage solide afin que les secousses de la route ne l'endommagent pas. Assis sur le banc, devant la maison, il regardait autour de lui cette activité humaine se réaliser sous ses yeux. Il régnait dans l'atmosphère une sensation d'évidence, de naturel, d'harmonie, après les tensions extrêmes des derniers jours. Ce calme qui revient une fois l'orage passé, où l'on n'entend plus que les gouttes tomber des feuilles, par-ci, par-là. Alors qu'il allait se lever, il vit au bout de la cour, près du chemin qui partait en direction de la forêt, Viviane escalader le talus et partir à l'assaut d'une pierre qui dépassait dans l'herbe. Inconsciente, elle n'avait aucune chance de garder l'équilibre. La seconde d'après, elle dévalait jusqu'au gravier et s'immobilisait sur le dos. Édouard fut partagé. Une partie de lui le sommait d'aller sans tarder la retourner pendant que l'autre considérait qu'il était instructif de la laisser se dépatouiller quelque temps pour comprendre que ce genre de varap ne lui était pas destiné. Dans le gravier, elle n'avait aucune chance de se retourner tant le sol se dérobait sous ses coups de patte. Alors qu'il s'apprêtait à lui porter secours, il vit Platon s'approcher de la tortue, lui tourner autour quelques instants, la renifler, avant de lui donner un coup de patte précis et puissant qui la remit sur pied. Puis le chat disparut derrière la porte entrouverte de la grange, surpris lui-même par son entreprise, presque honteux de sa propre générosité. Édouard se contenta de sourire, monta en voiture et démarra. Il s'absenterait au moins jusqu'au lendemain, peut-être durant quelques jours. Il se sentait libre. Personne n'exigeait de connaître ses activités, ses horaires de retour, à qui il en parlait ou de qui il recevait des messages. Si cette indépendance absolue l'avait d'abord déstabilisé, comme s'il marchait sur une trappe prête à s'ouvrir sur le vide à tout moment, il savourait désormais les plaisirs de l'émancipation. L'enfant qui lâche la main du parent pour faire seul ses premiers pas. Le jeune adulte à qui l'on tend les clés de sa première voiture. Ce moment où l'horizon s'ouvre et où les barrières s'inclinent, où le cheval galope tout son soûl, affamé d'épuisement. La seule limite qui s'annonçait au loin serait la mer. Élise l'attendait juste avant. Édouard se sentait heureux au volant de sa voiture. Il ne pensait pas au courrier signé sous la contrainte. Il ne pensait plus à Armel. Il n'échafaudait que des plans d'avenir, des projets, ceux qu'il avait établis sur le petit muret de pierre. Il ignorait s'il serait temporaire ou définitif. Plus rien n'était définitif. Ni un chagrin d'amour, ni le traumatisme d'enfance d'un orphelin, ni le besoin de vengeance d'une jeune femme blessée. Il se refusait donc à toute comète sur laquelle faire des plans. Il se contentait de conduire, de penser au plaisir de retrouver Élise, au désir qui montait en lui et à ce formidable élan qui le poussait à tout recommencer, à la joie qui reste quand le chagrin a fondu avec le redoux. La chaleur humaine nous offre de nouveaux printemps, se dit-il, apaisé. Élise déballa le cadeau avec l'excitation d'une enfant à Noël. Elle enleva avec une infinie délicatesse chaque couche de protection, car elle se doutait de la fragilité de l'objet dont les formes se dessinèrent bientôt. La roue trônait sur la table du petit salon, et un amas de papier froissé, de plastique à bulles, de chutes de tissu jonchait le sol, abandonné sans égard au profit de la découverte urgente du contenu. Élise, qui ne pouvait se défaire de son expression joyeuse, chercha une rallonge dans le buffet du salon, puis brancha la roue qui se mit à tourner. Et là, il y a un petit réservoir pour du savon liquide, avec ce petit bouton pour activer un ventilateur. Je me suis dit que si tu la mettais devant ta vitrine l'été, les passants seraient attirés. Bien sûr, Élise voulut essayer. Elle chercha du produit vaisselle à la cuisine pendant qu'Edouard descendit au magasin. Alors qu'elle remplissait le réservoir, lui répartissait des échantillons dans chaque nacelle. Il pensa alors qu'il aurait pu joindre au mouvement une petite musique, comme ces minuscules boîtiers dont il faut tourner la manivelle pour voir les lames métalliques caresser un tambour imprimé de notes en relief. Il y réfléchirait. Quand elle alluma le ventilateur au centre de la roue, le mécanisme s'enclencha et délivra ses premières bulles. Elle éclata de rire, de ce rire enfantin qu'elle n'avait pas perdu, qui avait fait fondre Édouard à 15 ans, qui le faisait fondre à 50. Ce rire, aussi petit et innocent soit-il, désintégrait toutes les peines, toutes les peurs. Il s'installait au premier plan, cachant derrière lui toute la misère du monde. En peu de temps, le salon fut envahi de bulles qui se fabriquaient plus vite qu'elles n'éclataient. Élise et Édouard se faisaient face, se tenaient à bout de bras, se regardaient en riant à chaque fois qu'une bulle venait éclater sur le visage de l'autre. Bientôt, il l'entraîna dans la chambre à coucher pour glisser leurs deux âmes dans la chaleur d'un lit. Deux corps nus et mêlés d'une 50aine d'années, dont le mélange chantait la jeunesse centenaire. Un siècle d'amour folle sur des draps bleus à pois. Et ce siècle transi devenait minuscule, un instant, concentré comme un seul grain de sable qui aurait contenu toute la beauté du monde. L'instant d'après, alors que le calme revenait, après avoir goûté à ce moment d'éternité, la réalité les rattrapa. Une réalité crue et triste. Élise éprouvait le besoin d'être honnête avec lui, de ne plus lui cacher cette vérité qui la hantait. Elle se serra contre lui, comme si elle sentait déjà le froid que ses mots allaient semer. Elle n'imaginait pas construire un nouveau départ sur un mensonge, même par omission. « Il faut que je te dise quelque chose, Édouard. » « Pourquoi cette petite voix triste? Ce n'était pas bien? J'ai besoin de te parler d'autre chose. De grave? Compliqué. Dis-le avec des mots simples. Tu sais, je n'ai pas retrouvé tes coordonnées par hasard pour t'écrire. C'est quelqu'un qui me les a envoyées, juste après qu'un article apparaisse dans Ouest France à propos de ma boutique. Et alors? Tant mieux, non? Le principal est qu'on se soit retrouvé. Élise se tut. Elle savait qu'il serait blessé, qu'il ne comprendrait peut-être pas. Elle avait peur de le perdre une seconde fois alors qu'il venait de se retrouver. Pour autant, elle refusait de vivre avec ce poids, ce silence trop bruyant à s'en percer les tympans. Un secret qui n'aurait jamais dû exister et qui s'imposa pourtant quand il fut question d'écrire cette lettre. Enfin, Élise, dis-moi, où est le problème? C'est Armelle, ta femme, qui m'a contacté. Quoi? Édouard se redressa dans les draps, en dégageant brusquement son bras. Il ne comprenait pas, et dans le même temps tout s'éclairait, ou du moins devenait sombre. Il s'assit au bord du lit en cherchant ses vêtements. Élise disparut sous la couette prise dans la glace. C'est elle qui s'est arrangée pour qu'on se retrouve, toi et moi? Elle a donc tout organisé pour que je parte et pour me faire porter le chapeau au passage? Je ne sais pas, Édouard. Elle m'a seulement dit que ça te ferait plaisir d'avoir de mes nouvelles parce que tu ne m'avais jamais oublié. Tu sais que j'ai posté hier mon accord pour lui laisser l'appartement à Paris? Elle a tout manigancé pour arriver à ses fins, en me faisant passer pour seul responsable et toi, tu l'as aidé. » Il avait déjà enfilé son pantalon et ses chaussettes. Il se glissa dans son pull sans prendre la peine de mettre son t-shirt, puis il alla chercher sa veste au salon. Si la roue tournait toujours, les bulles avaient disparu. Elles avaient tout éclaté et la réserve était vide. Tout éclatait au fond de lui et plus rien ne tournait rond. Il éteignit l'interrupteur pour faire taire cette roue maudite avant de s'engouffrer dans l'escalier pour aller vomir sa colère sur les routes bretonnes. Il n'entendit que son prénom derrière les épais rideaux, au milieu d'un sanglot long. En quittant Val-André, il partit en direction du Cap Fréhel. 20 minutes de petite route sinueuse. Il avait besoin de vent. À 7 heures du soir, devant les barrières closes, il abandonna sa voiture sur le bas-côté. Il courut sur la route en direction du phare. Il n'était venu qu'une fois. 10 avril 1986. Denis nous a proposé de nous joindre à l'excursion dominicale pour ne pas être seul en tête-à-tête avec ses parents. Élise a prétexté un exposé à faire en cours d'histoire sur le sujet de l'architecte Vauban pour obtenir l'accord de ses parents. Nous sommes en avril. La journée est belle malgré un vif vent du nord. Élise est emmitouflée dans sa veste militaire, une grosse écharpe autour du cou et un bonnet enfoncé au-dessus des oreilles. Cadeau de sa grand-mère. Elle est le genre de fille à pouvoir porter ce qu'elle veut. Tout lui va, du moment qu'elle sourit. Je me rends compte en pensant cela, alors qu'elle m'attend en me tendant les bras, que je ne suis pas objectif. Tiens-moi la main, sinon je vais m'envoler. J'en ressens la crainte réelle durant notre promenade qui nous fait longer la falaise autour du phare. Le vent ne faiblit pas et s'organise en quelques bourrasques plus fortes. J'agrippe la main d'Élise qui rit devant cette puissance, l'insouciante. Je suis fier de cet instant car elle est proche du bord et elle est heureuse. Elle fait confiance à ma main, à mon amour, à ma résistance au vent. Elle finit par se blottir dans mes bras et je sens le bout gelé de son nez dans mon cou. Il s'approcha de la falaise. Une armée de goélands jacassait. À intervalles réguliers, un orchestre de percussions couvrait les cris des oiseaux en venant claquer ses vagues sur les rochers 70 mètres plus bas. Seuls les éclairs du phare fendaient la nuit en tracite, répandant une blancheur sur la lande toutes les 10 secondes. Un vent puissant mettait ses muscles contractés à l'épreuve. En s'approchant trop, il risquait de basculer. Il se demanda si cela serait grave. Édouard ferma les yeux. Il sentit le nez froid d'Élise dans son cou, 30 ans plus tôt. Sa main chaude sur son torse une heure avant. Les deux sensations étaient merveilleuses. Pourtant, la déchirure du cœur tiraillait au milieu du vacarme des éléments. Il sentait dans son dos une main invisible le pousser vers le vide, celle de la trahison, dont l'ombre l'emmenait délicatement vers nulle part. « Regarde ce qu'elle t'a fait, ce qu'elles t'ont fait toutes les deux. N'as-tu pas envie de disparaître pour te libérer d'elle? Regarde, c'est si facile. Tu ne souffriras pas. On ne te retrouvera peut-être jamais. Tu seras la disparition mystérieuse du Cap Fréhel. » Et elles s'en voudront toute leur vie. Instable, Édouard s'assit au sol. Il pensait à sa fille, à Gauvin, Gaël, Raymond, Adèle. Il pensait à Élise, qu'il n'arrivait pas à détester, qu'il aimait aussi fort malgré ses révélations, d'autant plus difficiles à encaisser. Des larmes aussi longues que le vent, aussi denses que les vagues, noyèrent ses genoux.